Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mardi 9 février, l'hiver en met une couche, il neige en Bretagne, ce qui est assez rare, et les flocons vont se déplacer vers l'est. À cela s'ajoute un froid polaire dans le nord du pays, c'est simple. 28 départements sont actuellement en vigilance orange entre la neige, le grand froid et les inondations. Bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle. C'est vrai que c'est perturbé, hein. À l'ouest, cette perturbation, elle donne de la neige au nord de la Loire, de la pluie au sud. Alors des précipitations neigeuses ou pluvieuses entre la Bretagne et les Pyrénées, cette perturbation va se décaler vers l'est au fil des heures. C'est bien nuageux sur le reste de la moitié nord. Plus d'éclaircies tout de même sur le Nord-Pas-de-Calais et puis à l'est également entre la Franche-Comté et la Méditerranée et même du beau temps sur la Côte d'Azur. Les températures, elles sont très contrastées entre le nord et le sud, de moins 3 à 4 degrés au nord, mais le ressenti est souvent plus froid avec le vent, et de 8 à 16 degrés au sud.
Et nous irons du côté de Carré en Bretagne au marché de Voisem à Lille, et la ville de Paris demande, elle, le déclenchement du plan grand froid. Le télétravail, fausse bonne idée, les salariés sont de plus en plus critiques et ils font leur compte, c'est aussi une charge supplémentaire qui peut aller jusqu'à 150 euros par mois. Dans RTL Midi aussi, 5 personnes en garde à vue dans toute la France poursuivies pour avoir menacé de mort la jeune Mila qui avait posté des vidéos virulentes contre l'islam. Un sur trois a eu accès à la pornographie avant 12 ans. Le gouvernement lance une campagne pour mieux les prévenir. Justine Atlan de l'association Et Enfance sera l'invitée de ce journal. La question du jour sur RTL.fr, sur ce même thème justement, la pornographie en ligne, les enfants sont-ils suffisamment protégés? Vous dites non à 88%, il y a 6% de oui seulement. On attend vos témoignages au 32-10. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christelle, ce sera évidemment l'une de notre question. Faut-il interdire le froid? C'est une question que nous ne poserons pas bien sûr au 32-10, mais si vous voulez réagir quand même sur le froid et la neige, pourquoi pas appelez-nous. Dans la lutte contre les variants du Covid-19, faut-il fermer tous les établissements scolaires pour 4 semaines? C'est ce que réclame un syndicat majoritaire des médecins de l'éducation nationale. Faut-il supprimer certaines aides municipales aux familles de délinquants? C'est la mesure décidée par la ville de Poissy dans les Yvelines et son maire Carl Olive. Ça aussi, ça vous fera réagir. Et puis le hashtag #ScienceSport en référence à Sciences Po. Depuis hier, des témoignages d'étudiantes d'instituts d'études politiques se multiplient. Et si vous voulez rendre hommage à l'écrivain et scénariste Jean-Claude Carrière qui nous a quittés hier à 89 ans, n'hésitez pas, 32-10.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Des flocons, un téléphérique. Bienvenue à Brest. Il neige en Bretagne depuis ce matin et sur tout le nord-ouest. 28 départements sont classés en vigilance orange entre neige, verglas et inondations. Jusqu'à 15 cm de neige sont attendus d'ici ce soir, ce qui en ferait le plus gros épisode depuis 35 ans en Bretagne. Par mesure de prévention, il n'y a pas de ramassage scolaire ce matin. Nicolas Bobby, vous êtes dans le Finistère, à Uhelgoat, près de Carré pour RTL.
Oui, c'est la tempête de neige. Je suis devant le lac d'Uhelgoat. La commune a le look d'une station de sport d'hiver. Tous les toits sont blancs pour le plus grand bonheur de Camille, lycéenne.
Alors, je suis contente qu'il y ait de la neige. Mais après, j'espère que ça ne va pas durer longtemps parce que après, je vais aller à l'école quand même. Donc, il y a le bac cette année, donc j'aimerais bien retourner au lycée. Mais ça fait du bien un peu de neige pour le moral, je trouve.
La solidarité va s'organiser. Serge Losquin est l'ASVP, l'agent de surveillance de la voie publique.
Moi, je suis né ici à Uhelgoat et franchement, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas vu autant de neige. Cet après-midi, ma mission sera d'aller chez les personnes âgées pour voir si tout se passe bien, si elles n'ont besoin de rien.
La neige tient bien, commence à recouvrir les voitures. Marc Kemener, adjoint au maire.
Alors le salage va commencer, ça peut faire rire. On est à 200 mètres d'altitude. En plus, on est dans les monts d'Arrée. On a des montées, on a des descentes, on a des versants très pentus. On se doit d'aller vérifier tous ces points-là.
Bien sûr, des batailles de boules de neige ont commencé.
Voilà, Nicolas Bobby, près de Carré. Peggy Broche, je me tourne vers vous. Soyons précis. Où neige-t-il en ce moment et à quoi faut-il s'attendre dans les prochaines heures?
Eh bien, actuellement, Christelle, il y a déjà une petite couche qui commence à bien s'installer sur le Finistère, le Morbihan, les Côtes d'Armor. La neige va gagner au fil des heures les Pays de la Loire, la Normandie, le bassin parisien en début de soirée. Donc, prudence en sortant du travail aux alentours de 18h. Ça commencera à bien tomber pour ensuite, pendant la nuit, glisser vers la Bourgogne-Franche-Comté-Alsace. Attention d'ailleurs pendant la nuit aux pluies verglaçantes localement. Tout ça avant l'arrivée de la neige. globalement, on attend en Bretagne 5 à 10 cm de neige, 2 à 7 cm en Île-de-France, du nord au sud. Donc les sols vont blanchir, même dans la capitale.
Merci. La neige d'un côté, le froid de l'autre, dans le nord et le Pas-de-Calais, avec des températures de l'ordre de moins 5. On parle là de maximale. Hein. Mais ce matin, sur le marché de Oisem à Lille, le froid ne figeait pas les sourires, Franck Hanson.
Oui, heureusement, il y a du soleil dans ce ciel du nord qui réchauffe un peu. Sur les étals du marché, Bertrand, producteur, s'est installé un chauffage dans son camion.
On met plusieurs épaisseurs, puis on déballe un peu plus tard. On est comme le légume, on a un peu froid. Ça souffre, hein, il faut faire attention. Bon, il y a des légumes, ils supportent un peu le froid. Il y en a d'autres beaucoup moins, hein, des pommes de terre. Ça sucre, après elle prend un goût.
Vous êtes mis un chauffage dans le camion, c'est ça?
Oui, bah, on n'est plus habitué, on n'en sort pas de trop.
Plus trop habitué non plus à ces températures polaires, Madame Jeannot a connu pire.
On a eu des mois 18, hein, donc voilà, c'est... Puis lorsqu'on ouvre bien, on met des bonnes... perche de chaussettes, caleçon, il fait beau et c'est l'hiver.
Malgré tout, il faut sortir faire ses courses, mais n'oubliez pas les gants.
Ah, c'est brutal là, je vous avoue que là en plus avec la trottinette, j'aurais peut-être dû mettre des gants quoi. Non, j'ai pas de gants, j'ai pas pensé en fait. J'ai quand même un bonnet, faut du courage pour sortir.
Et chez les vendeurs de blousons pas chers, comme Louis, on a le sourire.
On donne tout à 10 euros, puis 10 euros aussi pour les chaussures d'hiver.
Ils sont chauds vos manteaux au moins?
Oui, très chaud, très chaud. Le plein grand froid, c'est énorme. On attend moins 15, hein. C'est plus que dur, hein. Je sais pas comment on va faire. On est des gladiateurs. Y arriver.
Les clients ne se sont pas trop éternisés quand même. Ici, ce n'est pas vraiment le moment de traîner.
Et vive les glaglateurs. À Paris, les températures devraient tomber jusqu'à moins 6 la nuit prochaine, puis moins 9. La mairie de Paris demande le déclenchement du plan grand froid. Et nous sommes avec Léa Filoche, adjointe à la maire de Paris, en charge des solidarités. Bonjour.
Bonjour.
Il y a urgence ?
Absolument, il y a une urgence particulière, c'est la crise dans la crise, hein. C'est celle qu'on redoutait depuis plusieurs semaines. On est en gestion de crise sanitaire, ce qui déjà pour les personnes à la rue est une épreuve particulière, suivie de confinement et de moments un peu complexes avec des déplacements particulier à Paris est difficile, oui. Des accès aux droits complexes. Et quand on ajoute à cet état sanitaire l'état du froid, dont on savait hein, qu'il arrivait, évidemment, on n'apprend pas les choses au mois de février 2021, on est aujourd'hui dans une situation qui est d'autant plus complexe pour les personnes à la rue. Et c'est la raison pour laquelle on fait un appel très très fort à ce qu'on puisse débloquer des nouveaux lieux pour pouvoir augmenter la capacité d'hébergement sur Paris.
Il y a 136 000 personnes hein, qui sont hébergées tous les soirs en région parisienne, hein, pas seulement dans la capitale, mais il manque combien de places à votre avis ?
Écoutez, ça c'est difficile de l'évaluer. La ville de Paris mène chaque année une opération qu'on appelle la Nuit de la Solidarité qui permet de pouvoir, depuis 2018, de pouvoir évaluer le nombre de personnes à la rue malgré les plans hiver successifs de 3500 à peu près.
Mmh. Est-ce que vous pouvez réquisitionner encore des gymnases, des hôtels ?
Alors la ville de Paris est pas maître de ces réquisitions, c'est l'État dans le cadre du déclenchement du plan grand froid qui peut venir réquisitionner certains lieux vides dans Paris. Et effectivement, il y en a aujourd'hui un peu plus que d'habitude puisque nous avons une situation particulière liée à la situation sanitaire avec des hôtels vides. Hein, 50% des hôtels parisiens n'ont pas rouvert depuis le mois de mars 2020 avec des lieux culturels ou des lieux de salles de congrès qui sont non utilisés aussi. Et que l'État pourrait effectivement mettre à disposition des personnes qui restent à la rue, malgré ce qu'il a fait. Hein, l'État a beaucoup œuvré hein, depuis plusieurs mois sur les questions de réquisition d'hôtels. C'est une réalité, il faut tout à fait le reconnaître. Mais ce qu'on constate, et je pense que les Parisiens me rejoindront sur ce sujet, c'est que malheureusement, ça n'est pas encore assez.
Oui, et le problème, c'est qu'avec ces températures très basses, il faut aussi un accueil de jour.
Absolument, c'est-à-dire que les lieux d'accueil doivent pouvoir être ouverts 24 heures sur 24, ce que fait la ville hein, sur ces lieux qu'elle gère elle-même, puisque nous avons augmenté nos maraudes et nos lieux d'accueil de jour et nos lieux d'accueil de nuit à ce jour-là. Mais on sait malheureusement qu'il faut là mettre, on va dire, passer la deuxième très sérieusement, et c'est pour ça qu'on fait cet appel à l'État.
Voilà, vous réclamez le plan grand froid sur RTL. Merci Léa Filoche, adjointe à la maire de Paris en charge des solidarités. On fait une pause et dans un instant, on se met au chaud et on télétravaille.
RTL. RTL Midi
avec Christelle Robière.
Télétravailler partout où c'est possible, c'était l'injonction de Jean Castex la semaine dernière pour contenir la progression des variants du virus. Le télétravail qui ressemble de moins en moins à un Eldorado pour les salariés. D'après le baromètre annuel de Malakoff Humanis, 73% préfèrent être au bureau s'ils ont des problèmes à résoudre. Et en plus, le travail à la maison peut coûter parfois plus de 150 euros par mois. Et c'est une dépense qui n'est pas forcément prise en compte par les employeurs, Martial Youn.
Absolument. Vous avez en ce moment un salarié sur trois qui travaille ou télétravaille encore. Et c'est vraiment du sur-mesure, effectivement. En fait, dans le cadre de l'accord national qui a été signé il y a quelques mois sur le télétravail, il y a une obligation qui s'impose à l'employeur de prendre en charge les frais de son salarié à la maison. Mais il n'y a pas de liste. Donc, chacun fait un peu comme il veut. C'est du cas par cas. Le cabinet Conviction RH a donc fait ses calculs. Quand on met bout à bout les frais de chauffage, c'est ce qui coûte le plus cher parce que on baisse la température en temps normal à la maison quand on part au bureau. Ça peut monter jusqu'à 48 euros par mois, plus les frais d'électricité, plus la nourriture, plus le matériel pour travailler, la ramette de papier, le stylo, la cartouche d'encre, les capsules de café. Là, ça peut aller jusqu'à 8 euros par mois. Et bien, quand on met tout ça ensemble, la facture peut se chiffrer à 174 euros par mois dans le pire des cas. Ça correspond d'ailleurs à ce que le syndicat CFE-CGC avait calculé, puisque l'organisation avait parlé de 100 à 200 euros par mois. Alors, tout dépend si votre employeur continue à vous rembourser les cartes de transport, par exemple. Ça arrive, même si vous restez chez vous. Dans ces cas-là, vous êtes gagnant. On économise aussi sur l'usure de la voiture et sur l'essence. Mais cette somme ne prend pas en compte, par exemple, ceux qui ont changé d'ordinateur ou de chaise de bureau pour être mieux installés au quotidien. Ça n'est pas toujours remboursé par l'entreprise.
Oui, parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont eu mal au dos pendant le premier confinement. Merci Martial. Entre 3,5 millions et 4 millions de personnes auront été vaccinées d'ici fin février. C'est ce qu'affirme ce matin le ministre de la Santé. Olivier Véran a aussi eu cette phrase. Il est possible qu'on ne soit jamais reconfiné. Et on sent qu'il se range du côté du président de la République. Comme tout le monde, j'allais dire, Jacques Seret.
Oui, même lui. Alors qu'il y a à peine deux semaines, le ministre de la Santé donnait une conférence de presse alarmiste. En coulisses, aux côtés des blouses blanches, il faisait clairement partie de ceux qui plaidaient pour un reconfinement. Mais finalement, 11 jours après la décision du chef de l'État de ne pas reconfiner le pays, Olivier Véran doit bien se rendre à l'évidence. Si l'on reste sur un plateau haut, il n'y a pas, pour le moment, cette flambée de nouveaux cas tant redoutée. Et même Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, se fait discret, note d'ailleurs un habitué de l'Élysée. Depuis une semaine, tout donne raison au président, se félicite aussi un conseiller du chef de l'État. Un exercice d'autosatisfaction, même si officiellement au palais on veut, et je cite, rester humble. En effet, Christelle, mieux vaut l'être en cette période où toute certitude est fragile.
Jacques Seret, les musées municipaux de Perpignan ont rouvert ce matin. Le maire d'extrême droite, Louis Alliot, avait pris un arrêté en ce sens hier, au mépris des consignes sanitaires nationales. Et en attendant une décision du tribunal administratif, les premiers visiteurs se sont rendus, notamment au musée d'art. Il y a Saint-Trigaud, vous vous trouvez pour RTL, Patrick Tégéraud.
Une soixantaine de visiteurs ont franchi la porte monumentale du musée ce matin. La jauge est à 100.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
À vous d'entrer ?
Voilà, bonne visite.
Florian a été l'un des premiers.
Pour moi, ce que fait le maire de Perpignan, je trouve ça vraiment bien.
Bérangère est venue rendre visite à sa petite fille qui habite juste en face.
Oui, c'est illégal bien sûr, mais c'est une nécessité quand même, je pense, d'avoir autre chose que le 33 quotidien.
Emma, elle, est artiste et elle était en manque d'art.
Pas forcément là, comme ça, ici, qu'on risque quoi que ce soit. Je prenais le car ce matin et je sais pas, la jauge dans les autobus, mais c'était compliqué là.
Le maire, Louis Alliot, considère son opération comme une expérimentation.
Par la culture et par la démonstration que c'est possible dans un musée, je pense que ça peut être de nature à rassurer pour ouvrir le reste et déconfiner le reste.
Le tribunal administratif de Montpellier se prononcera lundi sur la validité de l'arrêté municipal. L'expérience culturelle perpignanaise va donc durer au moins une petite semaine.
Patrick Tégéraud à Perpignan pour RTL. D'où est parti le Covid ? Une équipe de l'Organisation mondiale de la santé est partie enquêter à Wuhan en Chine. Un expert affirme ce matin qu'une transmission depuis un premier animal vers un deuxième avant l'homme est l'hypothèse la plus probable. Ils ne retiennent pas la théorie d'une fuite d'un laboratoire. Dans un instant, 5 personnes en garde à vue pour menace de mort contre la jeune Mila.
RTL. RTL Midi avec Christelle Rebière.
Elle est une cible privilégiée du cyberharcèlement. Mila, cette lycéenne qui a publié plusieurs vidéos virulentes contre l'islam et qui a fait l'objet de menaces de mort. 5 personnes viennent d'être placées en garde à vue aujourd'hui pour l'avoir menacée et elles ont été interpellées, Guillaume Chiez, dans toute la France.
Oui, ce sont les gendarmes de l'Office contre les crimes de haine qui ont procédé tôt ce matin à leur interpellation. Et des personnes âgées de 18 à 29 ans, tous ont réagi en novembre dernier à une vidéo postée en ligne par la lycéenne dans laquelle elle critique à nouveau l'islam. À cette époque, Mila, qui a été contrainte de changer 2 fois de lycée suite à de précédentes vidéos, avait reçu, dit-elle, 1 millier de menaces de mort. L'adolescente a même publié l'une d'elles où son interlocuteur lui promet le même sort que Samuel Paty, l'enseignant décapité en octobre dernier. Parmi toutes ces menaces, donc, les gendarmes ont pu remonter jusqu'à 5 personnes. Ils vivent un peu partout en France, le Calvados, les Hauts-de-Seine, la Loire-Atlantique, la Marne et la Moselle. Ils sont actuellement en garde à vue, encourent une peine de 3 ans d'emprisonnement maximum et 45 000 euros d'amende.
Guillaume Chiez, ils sont encore à l'âge des jouets et pourtant ils ont déjà eu accès à la pornographie. D'après un sondage de 2018, 1 enfant sur 3 a vu du porno avant 12 ans. Le gouvernement lance aujourd'hui une campagne avec un spot vidéo qui met en scène une famille. Écoutez.
Comment on fait les bébés ?
Bah, c'est simple. La femme, elle est à 4 pattes, l'homme lui tire les cheveux et elle crie très fort.
C'est cru et c'est fait pour, car il s'agit d'alerter les parents. Et nous sommes avec Justine Atlan, la directrice générale de l'association e-enfance, dédiée justement à la protection des jeunes sur Internet. Bonjour.
Bonjour.
Le clip est assez caricatural, mais aujourd'hui, la pornographie reste un vrai problème, car son accès est toujours trop facile pour les jeunes.
Bah, il est facile, tout court, oui. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de différence entre des adultes, en réalité, et des enfants et des ados sur Internet pour consulter de la pornographie, puisque les sites pornographiques sont dans l'incapacité, à ce stade, de faire la différence entre un mineur et un majeur. Donc, il suffit de, si on vous pose la question, ce qui n'est pas le cas sur tous les sites, de répondre que oui, vous avez 18 ans et vous avez accès, effectivement, à ce contenu.
Oui, en fait, c'est ça. Ou alors, il y a aussi des sites qui sont hébergés à l'étranger contre lesquels on ne peut rien.
Oui, mais enfin, si c'était ça le problème, on comprendrait. En réalité, c'est qu'il y a des sites qui opèrent en France, qui sont tout à fait identifiés ou en tout cas qui ne sont pas liés à une mafia quelconque ou autre et qu'on pourrait quand même restreindre dans leur visibilité en France en leur imposant de tout simplement respecter la loi française qui est maintenant en plus très spécifiquement que le fameux disclaimer qui vous demande votre âge ne suffit pas en fait vraiment prouver que vous avez mis tous les moyens nécessaires pour empêcher des mineurs d'avoir accès à ce contenu qui est interdit en France, au moins de 18 ans.
Qui n'en fait pas assez ? Les opérateurs téléphoniques, le CSA, l'État ?
Les sites pornographiques, déjà.
Oui, bah, les premiers,
c'est quand même eux, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ont décidé d'avoir cette activité, ils ne sont pas obligés, qui est une activité extrêmement régulée, en fait, comme le jeu d'argent. C'est exactement la même chose. C'est une activité légale, mais qui est réservée aux mineurs. À partir du moment où ils décident d'avoir cette activité, il faut qu'ils respectent le cadre légal. Alors après, en fait, effectivement, on peut demander aux opérateurs, on peut demander au système d'exploitation de nos téléphones, etc., d'installer du contrôle parental par défaut et tout ça. Mais tout ça lutte contre quelque chose qui est déjà à la base, quand même, est mal parti. Le gouvernement a tenté d'avoir un peu un rapport de force avec un certain nombre de systèmes d'exploitation pour leur demander d'installer le contrôle parental par défaut. Manifestement, ça n'a pas fonctionné. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on a un portail d'information qui va être très utile pour les parents, mais qui, quand même, à nouveau, fait retomber la responsabilité sur les parents.
Ben, alors, justement, la responsabilité des parents, d'accord. Ils sont là aussi pour faire de la pédagogie. Il y a un chiffre, quand même, qui est assez hallucinant. Il y a 44% des adolescents qui ont déjà eu des rapports sexuels qui déclarent avoir essayé de reproduire des pratiques vues dans les films X. Alors, quel discours les parents doivent-ils leur tenir ? C'est difficile d'aborder ça avec les ados.
En fait, oui, c'est-à-dire que c'est même pas quel discours, il faudrait qu'ils en parlent tout court. C'est vrai que c'est compliqué. Alors, c'est pas l'âge de l'adolescence qu'on parle de sexualité en premier, comme pour tout d'ailleurs. L'adolescence, c'est pas le moment de commencer à affronter les sujets compliqués parce que c'est
sans doute le moment le plus difficile.
Voilà, donc c'est vraiment l'âge où vous êtes plus tellement légitime en tant que parent et voilà. Donc il faut le faire avant. Il faut pas penser qu'on devient un être sexué à l'adolescence. On est des êtres sexués dès qu'on est. Et donc il faut tout de suite, il y a des problèmes d'ailleurs dont on parle par ailleurs dans l'actualité liés aux violences sexuelles sur les enfants, etc. Tout ça, ça fait partie d'un problème de tabou qu'on a avec la sexualité, où on n'en parle pas aux enfants, on parle pas de leur corps, on parle pas de certains organes, à quoi ça sert, pourquoi justement ça peut intéresser les adultes, qu'est-ce que c'est qu'un enfant, enfin plein de choses comme ça. Et on se rend compte que finalement, en faisant un tabou nous adultes, parce qu'on est dans l'incapacité d'en parler à nos enfants, en fait on fragilise nos enfants, on ne les protège pas. et c'est eux au final qui payent le prix de notre incapacité à parler de ce sujet. Donc je pense qu'on peut faire tous un petit effort pour se dire que ça vaut peut-être la peine de leur parler de ce sujet-là, d'essayer de trouver les moyens de l'aborder. Il y a plein de choses qui existent, des jouets, des poupées, des dessins animés, des films, enfin c'est quand même rempli de sexualité, de l'art, il y a plein de choses qui en parlent, qui le montrent, de façon quand même très allégorique aussi, donc comme quoi c'est possible. Et pour que ce chemin de ce discours sur la sexualité démarre dès l'enfance et soit en permanence présent, bien évidemment avec pas les mêmes mots à 5 ans qu'à 10 ans et qu'à 15 ans, mais qu'à l'adolescence, l'enfant soit préparé finalement.
Oui, parce qu'on a l'impression que les enfants, ils grandissent avec les codes de la pornographie aujourd'hui.
Mais parce qu'en fait, à l'adolescence, il n'y a que ça qui vous intéresse, à quoi ça ressemble, comment je fais, comment je vais faire quand je vais le faire, etc. Et tout. Donc si personne ne vous en a jamais parlé, si vous ne connaissez rien, etc., bah, vous allez là où vous pensez qu'on va vous montrer, bah, vous allez enfin voir derrière le trou de la serrure, et vous allez voir la vérité. Et s'il n'y a pas d'autre lieu pour vous le montrer, bah, effectivement, vous pensez que c'est ça et qu'il faut faire comme ça. Donc vous le faites, et les garçons comme les filles en sont victimes au final dans leur sexualité plus tard.
Donc vous réclamez un meilleur contrôle de la part des autorités, puis un peu plus de pédagogie de la part des parents, et on aborde le problème assez tôt, j'ai bien compris.
Oui, absolument.
Merci beaucoup, merci Justine Atlan, directrice générale de l'association e-Enfance.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et c'est une opération séduction menée par les viticulteurs de Roanne dans la Loire. Ils viennent d'envoyer une caisse de vin à la Maison Blanche. Ils espèrent qu'en grisant un peu Joe Biden, celui-ci supprimera la taxe Trump, Frédéric Perruche.
Allez savoir, Christelle, si nos sympathiques vignerons du Roannais, 25 exploitations, 200 hectares, pouvaient influer sur la politique américaine en matière de taxes sur le vin, l'espoir est mince. Mais ce best-of, cette caisse des meilleures bouteilles de la région, a déjà l'immense mérite de faire parler de ces crus de la Loire qui peinent à se faire connaître. Glisse avec malice Edgar Pluchot, viticulteur et porte-parole.
Un petit clin d'œil sympa, c'est vrai qu'on est une toute petite appellation au milieu des grandes. Envoyer des bonnes petites bouteilles, et c'est notre seul moyen d'un peu d'exister à l'heure actuelle, puisque les dégustations sont toutes fermées. Si ça peut au moins aiguiser la curiosité, eh ben c'est gagné quoi.
Six vignerons ont envoyé leurs meilleures bouteilles, comme Stéphane Serol, un des rares exploitants de la côte roannaise à exporter aux États-Unis.
On est sur un Gamay Saint-Romain, des très beaux tanins, c'est vinifié en grande cuve bois qui permettent d'élever le vin pendant un an tout en douceur pour amener de la finesse et de l'élégance. C'est des vins qui sont gourmands, goulayants, des vins digestes. Quand on a fini le verre, on a souvent envie de s'en servir un autre parce que c'est des vins qui appellent à boire, comme on dit chez nous, les anciens disaient ça.
Avec modération, monsieur le président, à des déguster si possible avec un bon fromage made in France, évidemment.
Merci Frédéric Perruche. Il avait le goût des autres et des mots. Jean-Claude Carrière est mort lundi à l'âge de 89 ans. Écrivain et scénariste prolifique, il avait signé une soixantaine de scénarios de Belle de jour à Cyrano de Bergerac en passant par Le retour de Martin Guerre et aussi 80 ouvrages de récits ou d'essais. Et quand il travaillait sur un film, eh ben, il pouvait aussi être parolier de certaines chansons.
Mais blondes ou brunes, Paris font mieux, une égale de et deux n'en font qu'une.
Est-ce que vous les avez reconnus hein?
Je Pascal. Pense que c'est Jeanne Moreau et Brigitte Bardot,
oui,
peut-être.
Yes. Dans le film de Louis Malle, Viva Maria, c'est en 1960. Le
film de Godard ?
Non, Louis Malle.
Louis Malle. Justement, je regardais tout ce qu'a fait cet homme qui a traversé la vie un stylo à la main. Nous, on fait des petites émissions de radio qui seront oubliées. Ce qui est extraordinaire, ce qu'il a fait. Vraiment, il a écrit des chansons.
C'est incroyable. Il est un grand humaniste.
Voilà, et il y a vraiment des gens qui ne sont pas faits du même bois que les autres hommes. Il a écrit des pièces de théâtre, l'aide mémoire, Delphine Seyrig, la controverse de Valladoïne, vous avez cité Valmont. Et puis, en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est parfois du cinéma très populaire, parfois c'est du cinéma très pointu, comme Buñuel, etc. Donc, je ne sais pas si on en parlera. Pour tout vous dire, j'aimerais que les auditeurs en parlent beaucoup. Je ne sais pas s'ils auront envie d'en parler. Je suis en retard ou j'ai le droit de parler encore de la pornographie ? Bon, la pornographie, c'est intéressant, évidemment, mais qui sont d'abord les responsables, si j'ose dire, des enfants ?
Les parents ?
Mais oui ! Enfin, quand même, Christelle, on
mais
en revient
pas
toujours.
Vous ne pouvez pas tout le temps derrière votre adolescent regarder ce qu'il fait sur son
portable. Adolescent, c'est pas la même chose. Parce que qu'adolescent à 15-16 ans...
À partir de 12 ans, ils ont eu...
Et bien à 12 ans, vous pouvez être derrière vos enfants, quand même.
Il y a des enfants qui ont des portables à 9 ans.
Et bien vous leur donnez pas. Ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ?
C'est facile avec Pascal.
Mais les parents ont une responsabilité sur l'éducation des enfants.
Aussi, on en a parlé.
Aussi, vous dites. C'est formidable votre phrase, aussi. Surtout.
Mais pas que. Il y a aussi les sites qui sont responsables, mais les enfants aussi. Ça s'appelle l'éducation.
Exactement.
Bon, il faut remettre l'église au milieu du village. Bon. Faut-il interdire le froid? Voilà la question qu'on va se poser.
Tiens, on pose la question à Peggy Broche parce qu'il y a un froid sibérien.
Ouais, ça va pas être possible de l'interdire. Hein. Ce froid, il vient d'Europe du Nord, il est là et il s'installe pendant quelques jours. En plus, je suis désolée, au nord de la Loire. Alors cet après-midi, encore beaucoup de gelée, moins 3 degrés à Lille, moins 2 à Rouen, moins 1 à Caen et à Paris, 1 degré seulement à Brest et Metz, 4 à Nevers. Mais c'est tellement plus doux et de saison, voire un peu plus même dans le sud. 8 à Lyon et Limoges, 13 à Toulouse, 14 à Marseille, 16 à Nice et même 17 à Bastia. Alors épisode neigeux et de grand froid au nord, on a 27 départements qui sont en vigilance orange, 18 sur le nord-ouest pour neige, verglas, entre Bretagne, Normandie, Île-de-France. Le nord et le nord-Pas-de-Calais pour grand froid, le ressenti est entre moins 10 et moins 13 degrés. Et puis 7 départements toujours pour vigilance inondation. Côté ciel, une perturbation sur l'ouest du pays, entre la Bretagne, les Pyrénées donne du coup de la neige au nord de la Loire, de la pluie au sud, c'est bien nuageux sur le reste de la partie nord jusqu'au Grand Est et plus d'éclaircies tout de même sur le nord-Pas-de-Calais, mais aussi dans l'est du pays et surtout entre la Côte d'Azur et la Corse avant l'arrivée de la perturbation cette nuit. La neige actuellement en Bretagne, elle se décale au fil des heures hein, sur les régions de l'Est. Ça concernera l'Île-de-France en début de soirée. Attention quand vous allez rentrer en voiture aux alentours des 18h. On attend 5 à 10 cm de neige en Bretagne sur cet épisode. 2 à 7 cm en région parisienne du nord au sud.
Ça va être sympa le couvre-feu.
Oui.
18h. Bon, et demain, attention au verglas.
Oui, déjà dans la nuit, donc localement vers la Bourgogne-Franche-Comté. On retrouvera du coup de la neige demain matin vers Bourgogne-Franche-Comté jusqu'en Alsace. Encore quelques flocons sur le reste de la partie nord, mais beaucoup moins. Et de la pluie dans le sud-ouest, également entre les Alpes et le Jura, mais de la neige en montagne. Et petite amélioration dans l'après-midi au nord de la Loire, avec le retour d'éclaircies, également près de la Méditerranée, mais ça reste agité en Corse. Les températures encore plus froides, de moins 8 à 1 degré au nord le matin, de moins 3 à 3 l'après-midi, mais le ressenti sera vraiment glacial. Et de 4 à 10 degrés le matin dans le sud, 6 à 15 l'après-midi. Oui, je sais, ça pique.
Ah oui, ça pique. Allez, on fait une pause, on en remet une couche. Le rappel des titres et puis c'est à vous, vous prenez la parole sur RTL.
RTL.
13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il y a une phrase d'Olivier Véran, on ne sera peut-être jamais reconfiné. Elle vous fait réagir cette phrase. Bonjour Bernard.
Bonjour Pascal.
Vous êtes content quand vous entendez cette phrase?
Ah oui, 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 je suis content et j'adhère tout à fait à ce propos d'Olivier Véran en fait. Hein, voilà.
Eh bien nous allons en parler bien évidemment, mais c'est le rappel des titres avec Christelle.
Face à face tendu ce matin à Toulouse devant la maison de Roland, ce retraité de 88 ans qui ne peut pas vendre son bien occupé par des squatteurs. On en parlait dans RTL Midi hier. Des défenseurs du vieil homme se sont réunis après un appel lancé sur Facebook, mais face à eux sont arrivées une quinzaine de personnes, certaines avec des cagoules, venues défendre les squatteurs. La police a dû intervenir. Sur place, Patrick Hisson vient de rencontrer Luc, le fondateur du groupe Tous Unis contre les squatteurs.
Les gens ont été informés de notre venue ce matin à 10h. Ils sont mobilisés à une vingtaine de personnes, voire une trentaine, pour nous faire quitter les lieux et pour qu'on n'accède pas à cette maison. On a eu le soutien de la police avec nous, qui a canalisé les choses pour que ça parte pas dans tous les sens. Ce soutien à ce monsieur, c'est aussi un coup de pression à leur maître, qui montre qu'il y a des gens contre eux et que tout le monde n'est pas avec eux et qu'ils n'ont pas tous les droits. Un monsieur de 88 ans qui a travaillé toute sa vie, qui aimerait juste se reposer avec sa femme dans un EHPAD, vendre sa maison pour aller se reposer avec sa femme et donner ce qui lui reste à ses enfants. On a tous eu un grand-père, on a tous des grands-parents et je pense que si ça vient à nous arriver, on aurait tous le cœur brisé, on réagirait tous mal.
On réagirait tous mal, dit Luc au micro RTL de Patrick Hisson. D'où vient le Covid? Les enquêteurs de l'Organisation mondiale de la santé actuellement en Chine n'ont pas de certitude, mais ils estiment qu'il s'agit très probablement d'une transmission depuis un premier animal à un deuxième avant l'homme. Du côté des vaccins, Olivier Véran, le ministre de la Santé, estime que 3,5 millions à 4 millions de personnes auront été vaccinées dans notre pays d'ici fin février. Le projet de loi contre le séparatisme examiné en ce moment à l'Assemblée nationale, les députés ont voté l'interdiction des certificats de virginité à la quasi-unanimité. Les professionnels de santé risquent une peine d'1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Un procès historique avec un accusé absent. Aujourd'hui s'ouvre devant le Sénat américain le procès en destitution de Donald Trump pour incitation à l'insurrection dans l'assaut du Capitole. Un procès à l'endroit même de l'attaque.
Les auditeurs ont la parole.